Vous êtes sur RTL.
Et merci beaucoup Yann Bouchery. Prochaines infos tout à l'heure à 11h sur RTL.
10h15, 11h30, RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka, Louana Belmondo et Jean-Sébastien Petit-Demange.
Oui, ben voilà, tout le monde est en place. Bonjour à tous, bon début de week-end et bienvenue dans RTL vous régale jusqu'à 11h30. On vous emmène ce matin sur une terre de bataille, une terre de chasse. On vous emmène dans l'ombre d'Arthur Rimbaud. Bienvenue à Charleville-Mézières, au cœur de ces Ardennes où la nature apaise. Ces Ardennes où vous apprendrez qu'on trouve le plus grand château fort d'Europe. Charleville où vous découvrirez qu'on aime passionnément les marionnettes. Vous savez, celles qu'on fait...
Avec de la ficelle et du papier.
Et on pense à Christophe forcément ce matin. Alors entre jambon des Ardennes, fromage de Rocroi et tantimol, celle-là je l'adore, laissez-moi vous présenter ceux qui devraient faire naître en vous cette furieuse envie de faire escale dans la région. Rimbaud, on parlera forcément beaucoup de lui ce matin. Rimbaud a écrit « Est-elle brune, blonde ou rousse, je l'ignore. Son nom, je me souviens qu'il est doux et sonore. » Car il n'est pas de nom qui résonne plus fort que le sien. Bon, ça, c'est pas de Rimbaud, c'est de moi. Voici Louana Belmondo.
Bonjour, bonjour tout le monde.
Elle est de retour.
Vous êtes mon Rimbaud à moi, alors.
Et oui, mais vous n'avez pas encore entendu mes poésies. Hein. Oui, c'est un poème à moi tout seul.
C'est lui, c'est John Rimbaud.
Démonstration. Quant à lui, il est à l'image du sanglier des Ardennes, dont la définition du Larousse est la suivante. Mammifère au cou épais, à la tête volumineuse, son arrière-train est plus étroit et se termine par une petite queue en pinceau. Mesdames et messieurs, Jean-Sébastien Petit-Demange.
Oh bonjour, bonjour Jean-Michel, merci pour cette formidable description.
Mais qui est tellement fidèle à la réalité. Ah bah et puisque les présentations sont faites, je vous rappelle que ces deux-là s'affronteront tout à l'heure dans un défi frigo aux allures de Bataille des Ardennes, juste après les infos de 11h. Un ingrédient de votre frigo pour deux recettes originales, imaginées par mes deux camarades. Pour jouer avec nous, c'est facile.
On va remettre le compteur à zéro.
Hein, on remet les compteurs à zéro aujourd'hui. Pour jouer avec nous, 3210 par téléphone ou par SMS en envoyant le mot régal, suivi de votre message au 64-900 et à gagner ce matin, écoutez bien, une semaine sur un bateau de location. Vous savez, c'est ces bateaux sans permis.
Wow.
Ça s'appelle le boat.
Oui.
Vous serez le commandant de votre propre croisière. RTL vous régale des histoires, des produits et beaucoup, beaucoup, beaucoup de passion. C'est tous les samedis, 10h, 11h30. Sur RTL.
Tell me what it's all about. You've got the answers, baby, there's no doubt. You got high. I'm gonna take my
got high. We got high.
Hi, Charline Spiteri et Texas sur RTL. Allez, avant de marquer une courte pause, le temps de vous dire que nous vous emmenons à Charleville-Mézières. Et avant cette pause, Jean-Sébastien, il y a un truc qu'on doit régler. Parce que vous connaissez mes origines belges, on le rappelle souvent. Finalement, qu'est-ce qu'on fait? On dit l'Ardenne, on dit les Ardennes. On va se mettre d'accord là-dessus d'entrée de jeu.
Bah, vous, vous avez l'Ardenne au singulier.
L'Ardenne belge, oui.
Voilà, nous, on a les Ardennes au pluriel.
Eh ben voilà, c'est clair.
On va dire pourquoi.
Les Ardennes, on vous expliquera pourquoi dans quelques instants. À tout de suite dans RTL vous régale.
RTL vous régale.
Passez une bonne journée sur RTL.
RTL, toujours avec vous. RTL. 10h15, 11h30, RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka.
Et c'est comme ça tous les week-ends, le samedi, 10h, 11h30, sur RTL avec Louana Belmondo et Jean-Sébastien Petit-Demange. Nous faisons escale à Charleville-Mézières, dans ces Ardennes, avec un S. Non mais c'est vrai qu'en France, on utilise le terme Ardennes au pluriel, à différence de chez nous en Belgique.
Ben oui, parce que ça date du 26 février 1790. L'Assemblée constituante crée les départements et il décide de créer le département des Ardennes.
Et il paraît qu'au moment de choisir le nom Ardennes au pluriel, les membres de l'Assemblée constituante avaient dans la tête une célèbre chanson de l'époque.
Qu'on n'a pas retrouvée.
Ouais. J'ai envie de vous dire, tant mieux.
Mais c'est vrai que, en plus, bon, c'est très, très aléatoire, c'est parce que le pluriel des Ardennes est bien antérieur à cette date de 1790, puisque suffit de penser au sanglier des Ardennes, qui n'était absolument pas un animal, hein, c'était Guillaume de la Macarenberg, qui était un puissant seigneur de cette région, un aventurier intrigant, qui était toujours entre deux manigances. Et là, on est au 15e siècle, donc c'est bien avant.
Son ombre va planer sur RTL vous régale ce matin, parce que Charleville-Mézières, c'est sa ville, tout ou presque, et Rimbaud là-bas.
Alors, c'est vrai qu'à côté de cette vitrine poétique, la terre des Ardennes est quand même une de celles en France qui a été constamment meurtri dans l'histoire. De la conquête romaine jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, les invasions, les occupations, les pillages, rien n'a été épargné à cette terre. En 1870, la défaite de Sedan a fait tomber Napoléon III. Les Ardennais subirent 51 mois d'occupation durant la Première Guerre mondiale. En mai 40, en 5 jours, ne voulant pas revivre la même chose, 300 000 personnes fuient vers le sud et le département se retrouve quasiment vide. Et puis, il faut jamais oublier que les Ardennes ont connu l'une des batailles les plus importantes de toute l'histoire de France. On est en mai 1643. Louis XIII vient de mourir. L'Europe est ruinée par une guerre commencée en 1618. À Rocroi, un garçon de 22 ans, le Grand Condé, écrase l'armée espagnole en 5 heures. L'Espagne voulait quand même profiter de la vacance du pouvoir pour nous annexer le royaume de France. Et peut-être qu'on parlerait espagnol s'il n'y avait pas eu ce Grand Condé.
Ben tiens donc. Et pourtant, il y a des lieux, il y a des lieux assez incroyables à découvrir dans la région. Alors, ils sont militaires, ils sont civils. J'en sais, il y a deux exemples qui sont assez méconnus, finalement.
Il y a Givet, qui est avec la forteresse de Charlemont, qui est plantée sur un éperon rocheux. 85 hectares, 10 km de rempart. C'est Charles Quint qui en est à l'origine en 1515. Et Vauban y a apporté sa petite patte à la fin du XVIIe.
Et on y découvre justement à l'intérieur le village qui comptait près de 100 maisons au début du XIXe. Bon, il y a la pharmacie, la boulangerie, l'église et le reste.
Et l'autre site, évidemment, c'est Sedan. Et là, vous avez le Dijonval. Le Dijonval, c'est une manufacture royale, la seule manufacture de draps en France pendant deux siècles. En 1755, on a construit une usine qui fait 25 travées, 3 étages, 2 rangées de lucarnes. C'est totalement monumental, c'est impressionnant. Aussi impressionnant que le château de Sedan, qui n'est rien moins que la plus grande forteresse, le plus grand château fort d'Europe, 35 000 mètres carrés, où bien évidemment, tout est fait en grand.
C'est immense, et les draps s'en souviennent. Les Ardennes, qui furent réputées très longtemps pour leur brasserie et leur bière, mais pas que.
Que vous imaginez qu'à Revin, au début du XXe siècle, un Revinois buvait en moyenne 986 litres de bière par an.
Oh mon Dieu, alors là j'ai fait un calcul, alors je ne suis pas très bonne en calcul, mais très vite fait, ça fait quand même 12 bières chaque jour.
C'est
alors
énorme.
On peut toujours les diviser parce qu'à l'époque, la bière de la vallée titrait environ 3 degrés, ouais. Mais quand même, 12 bières,
12 bières par
même
jour.
Vous le belge, vous ne buvez pas 12 bières.
Ça a tendance à me rappeler la recette des crêpes de Raymond Oliver, vous voyez ce que je veux dire? Alors Charleville-Mézières, qui est une ville plutôt jeune en fait.
Alors oui, c'est vrai que c'est la cité idéale créé par le prince Charles de Gonzague. On est au début du XVIIe. Et puis, juste à côté, il y avait Mézières, à côté de Charleville, une ville commerçante, prospère, qui s'était développée au Moyen-Âge. Et les deux cités ont été réunies en 1966 seulement, pour devenir Charleville-Mézières.
Et c'est d'ailleurs là qu'a lieu le Festival mondial des théâtres de marionnettes, qui s'est imposé comme la référence internationale dans le domaine depuis près de 40 ans maintenant, Louana.
Absolument, il est réputé en plus dans le monde entier. Ce festival rassemble quelques 250 troupes venues des 5 continents. C'est énorme. Tous les 2 ans, plus de 150 000 spectateurs débarquent à Charleville-Mézières en l'espace des 10 jours. Normalement, il se tient donc du 17 au 26 septembre 2021 pour la 21e édition. On espère qu'elle aura lieu justement.
On espère.
Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, Louana Belmondo est de retour. Elle reprend aujourd'hui son trône. Voici un résumé des épisodes précédents. Durant l'absence de la princesse, nous sommes tombés dans ce qu'il y a de plus bas, je dois vous l'accorder. Oui, mesdames et messieurs, le mensonge, la manipulation. J'ai, je l'avoue honteusement, soudoyé un chef belge pour faire chuter Petit Demange. Avec cette horrible tartine fenouil, il a déstabilisé la reine d'Arose. Oui, nous avons joué avec les flammes de l'enfer, mais votre retour, princesse Louana, annonce peut-être un brin d'humanité dans ce Game of Fridge, le défi frigo. Vous nous donnez un ingrédient de votre frigo et ils ont 1 minute 30 pour imaginer une recette. Rendez-vous juste avant les infos tout à l'heure, aux alentours d'11h. Vous allez jouer pour une semaine sur un bateau de location. J'adore cette idée. Au fil de l'eau, en famille, le bateau porte son nom et il est bien nommé. Il s'appelle le Boat. Si vous voulez jouer avec nous, c'est très simple. 3210 par téléphone ou par SMS en envoyant le mot régal suivi de votre message au 64 900. C'était une balade gourmande qu'on vous invite en ce samedi matin sur RTL, direction Charleville-Mézières et ses alentours.
RTL vous régale. RTL. 10h15, 11h30, RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka.
Du patrimoine, des histoires, des recettes, de la gastronomie, c'est la France entière que nous visitons tous les week-ends avec vous dans RTL. Vous régale le samedi matin. On fait escale aujourd'hui à Charleville et dans les alentours. Charleville, Jean-Sébastien, où on se doit de commencer par la place du Cal.
Oui, absolument. C'est vrai, je vous ai cité un nom, Charles de Gonzague. Lorsqu'on parle de cette place, on doit parler de lui parce que déjà, Charleville, c'est la ville de Charles, donc c'est la famille originaire d'Italie est venue s'installer là. Il a demandé à Clément Mettezzo de la construire, cette place. En fait, ce Clément, c'est le frère de Louis. Louis, c'est l'architecte de la place des Vosges à Paris. Et c'est pour ça que quand on est sur la place du Cal de Charleville-Mézières, on a un peu l'impression d'avoir déjà vu cette place si on est venu sur la place des Vosges. Il y a 24 pavillons très élégants avec des toits à 4 pentes. Certaines façades arborent des frontons triangulaires, d'autres des oculis. Mais contrairement à la place des Vosges, où la pierre blanche donne une noblesse toute parisienne, la pierre jaune de Charleville apporte un côté presque méditerranéen. D'autant qu'à l'origine, toutes les façades étaient peintes. La pierre était en ocre, les briques en rouge, les croisées de fenêtres en orange et les volets des boutiques étaient en vert. Et puis, il y a une star, on en parlera tout à l'heure. La star de Charleville, c'est bien sûr Jean-Nicolas Arthur Rimbaud. Il est né le 20 octobre 1854. La vie de Rimbaud est absolument incroyable. Il y a bien sûr toute la partie poétique. Il y a évidemment tout un parcours Rimbaud dans la ville. Moi, ce qui m'a toujours passionné dans la vie de Rimbaud, c'est à partir du moment où il est parti en voyage. C'est quand il a commencé à s'engager dans les troupes coloniales, à déserter, à devenir un chef de chantier à Chypre, à faire dans l'import-export en Éthiopie, en devenant l'ami intime du futur Négus. Il a trafiqué des armes. Et puis il est mort à Marseille en 1891 et on l'a enterré dans le cimetière de Charleville. Il n'aimait pas beaucoup Charleville, les Carolo Masseriens ne lui en ont pas tenu rigueur, ils l'ont quand même célébré, ils le célèbrent encore, et puis surtout...
Ce qui est hallucinant, Jean-Seb, quand on se penche sur la vie de Rimbaud, c'est quand on constate qu'il a écrit la majeure partie de ses œuvres entre l'âge de 15 et de 19 ans.
Ah, c'est pas la majeure partie, c'est toute son œuvre.
C'est toute son œuvre,
oui. Toute son œuvre a été écrite en 4 ans.
Génie.
Et toute son histoire, et c'est aussi 4 ans avec Verlaine. Et ça n'est que 4 ans. Et les Ardennes, il y a aussi une sainte trinité. Il y a l'eau, la roche et le bois. C'est de sombres forêts qui sont altières, une magnifique écharpe de nature apte à apaiser les tensions que nous connaissons dans ce monde moderne. C'est 2800 kilomètres de rivières qu'on peut parcourir. C'est des plans d'eau, c'est une Meuse, cette Meuse qui est absolument magnifique, tout en courbe, en boucle harmonieuse, qui serpente au milieu des forêts, au milieu des tourbières. C'est le paradis des randonneurs aux semelles de vent. Et forcément, si on doit être gourmand, quand on parle des Ardennes, on pense évidemment à tout ce qu'on peut faire avec la pêche, avec la chasse, avec le gibier, qu'il soit à poil, à plume. C'est un bonheur de se pencher sur des terrines, sur des pâtés croûtes qui sont faits avec du faisan, qui sont faits avec du canard, des pâtés de sanglier absolument magnifiques. Il y a des terrines de faisan, il y a des gigots de sanglier, enfin, tout le gibier qu'on peut trouver dans les Ardennes. Et puis, il y a également
un truc qui
a beaucoup plu à Louana.
Oui, la
vous
cacasse.
Comprendre pourquoi.
La cacasse à queue nue. À queue nue.
Oui, je me disais bien que vous ne pouvez pas le faire en une seule fois, celle-là.
Mais j'adore.
Repeat after me. Cacasse
à
queue nue.
À queue nue.
Non, queue nue.
Je ne sais pas le dire, à queue nue, mais ça me fait tellement... J'ai fait des recherches et j'ai trouvé un des plats les plus authentiques, cette recette ardennaise, donc qui remonte au XVIIIe siècle. Alors, elle naît dans les campagnes, comme très souvent toutes les recettes authentiques du terroir, et c'est un plat dit des pauvres. Alors, vous allez vous dire, pourquoi à queue nue, hein? Dites-moi pourquoi.
J'adore.
Vous devez me le dire.
À queue nue, a priori, il n'y a pas de viande.
Bravo, parce que traditionnellement, bon, c'est pas, elle s'est rhabillée depuis, elle s'est culottée depuis, parce que depuis, on rajoute des saucisses fumées.
Il y a du lard.
Mais à l'époque, en fait, comme toute, il n'y avait pas de viande dans cette recette de base. Alors, on frottait quand même, moi j'ai trouvé des vieilles recettes où on frottait quand même une cocotte en fonte avec une belle tranche de lard qu'on débarrassait. Et à ces moments-là, on faisait revenir des pommes de terre, des oignons. Et il fallait vraiment les faire cuire très doucement. Et puis, on faisait un roux. C'est-à-dire, une fois que les pommes de terre étaient cuites, on les débarrassait. Une fois qu'elles étaient bien croquantes, on laissait les oignons coupés en rondelles. On rajoutait un peu de farine et on faisait ce roux. Après, on remettait les pommes de terre. On allait mouiller à hauteur les légumes. On rajoutait de l'ail, du thym, du laurier, on salait, on poivrait et on laissait cuire le tout doucement à la feu de cheminée pendant 40 minutes. Et à la fin, on servait avec des herbes fraîches qu'on trouvait. Donc c'est vraiment la cacasse à queue nue, c'est quelque chose de très gourmand qui tient bien au corps. Et comme je disais, aujourd'hui, on peut la culotter en rajoutant de la viande.
Mais coulottez là tant que vous voulez. On est ravis. Moi, j'adore quand vous évoquez ces plats de ce qu'on appelle la cuisine dite pauvre. Et je dis ça parce que je sais que ça va vous parler, Louana, c'est assez semblable à une partie de la cuisine italienne, la fameuse la cucina povera.
Qu'on
réalise avec des plats
simples, qui
sont peu coûteux.
Absolument. Et peu d'ingrédients.
Avec certainement peu d'ingrédients. Exactement. Et puisqu'on parle de l'Italie, je voudrais vous présenter un extrait du nouvel album de Claudio Capeo. L'album s'appelle Penso a te. C'est un album en hommage à l'Italie de ses origines. C'est déjà disque de platine en France. Je sais que cette chanson vous parle, Louana.
Oui, Claudio Capeo et David Esposito et Senza una donna.
Personne ne peut le faire mieux qu'elle.
Non è così che passo i giorni, baby. Come stai? Sei stata lì. Adesso torni le idee, hey, con chi stai?
faccio anche da mangiare. Così è così, ridi pure, ma non ho più paure di restare senza una donna. Come siamo lontani senza una donna. Sto bene anche domani senza una donna. Meglio così. Non è così che puoi comprarmi, baby. Tu lo sai. È un po' più giù che devi andare, lady. Al cuore, yes, se ce l'hai. Io ce l'ho. Guardami, sono un fiore, non è proprio così. Ridi pure, ma non ho più paura di restare senza una donna. Come siamo lontani senza una donna. Sto bene anche domani.
La chanson de Zucchero reprise sur le nouvel album de Claudio Capeo aux côtés de Davide Esposito sur RTL. Dans un instant, on vous dit tout sur ce qu'il faut rapporter impérativement de la région de Charleville-Mézières. Il y aura du fromage, il y aura des lentilles, mais pas que. A tout de suite, c'est RTL vous régale.
RTL vous régale.
RTL. 11h30, RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka.
Très bon début de week-end avec nous sur RTL, dans RTL vous régale. On est à Charleville-Mézières, aujourd'hui on fait escale virtuelle là-bas et on va tout vous dire des produits qu'il faut impérativement rapporter. Je disais, il y aura du fromage, je ne me souviens pas les amis Luana et Jean-Sébastien, depuis le début de cette saison, avoir traversé une région de France sans avoir rapporté du fromage. Bah, on ne va pas faire exception à la règle.
Et puis de la charcuterie, de la bière.
Et ben voilà, on a fait le tour. On va même ajouter des légumes dans le panier, vous allez voir, ça va être surprenant aujourd'hui. L'Eurocroix, qu'est-ce que c'est-il, Jean-Sébastien ?
Ah ben l'Eurocroix, c'est un fromage au lait écrémé, c'est un fromage de lait de vache à pâte molle, à croûte naturelle, qui est produit dans les Ardennes. C'est un des fromages les plus légers qui soit, puisqu'il ne possède pas de matière grasse, puisque le fromage est écrémé, c'est un peu comme la cancoyotte. Il date du 18e. L'Eurocroix était sur le point de disparaître, il restait juste un producteur il y a quelques années. Et puis, l'intérêt pour le terroir a redonné vie à ce fromage et la fabrication a repris. C'est en fait une sorte de cousin du maroilles. Il a une saveur forte, très typée, mais c'est un fromage qui reste d'une grande finesse et très intéressant.
Je vous disais qu'on allait y ajouter des légumes. Bon, ils sont secs, mais la lentille, c'est important quand même. Bon pour la santé.
Le lentillon des Champagnes. Alors, la zone des plantations se trouve à Rethel. Alors, c'est une lentille tout mignonne, rosée, un peu corail, délicate, croquante en bouche, et elle a un goût légèrement sucré. Alors en cuisine, elle est intéressante parce que c'est pas la peine de la faire tremper, ni de la cuire très longtemps pendant des heures. 20 minutes suffisent dans 3 fois son volume d'eau non salée et froide surtout, on démarre à froid.
Vous faites quoi avec ces lentilles, vous, par exemple?
Alors, elles sont délicieuses en salade, on accompagne un saumon, un pavé de saumon, viande blanche. Mais moi, ce que j'ai fait, parce qu'on ne mange pas assez des légumineuses, je rajoute très souvent une poignée à moitié de cuisson dans mon minestrone ou dans ma soupe.
Ah, bonne idée. Bonne idée. Du sucre également, Jean-Sébastien, et pas n'importe lequel.
Alors, ça c'est une vraie tradition, ce sucre rouge. Le sucre rouge, c'est une friandise de fabrication artisanale. C'est un mélange de sucre blanc, d'eau, de glucose et d'un colorant rouge naturel, très vif. C'est un sucre d'orge, en fait, qui est sans orge, mais qui est avec un colorant rouge. La tradition à Charleville, elle remonte à 1925. Ça a été transmis de génération en génération par la famille Simon. Et chaque sucre représente différents sujets, des animaux, des petits cœurs, des Saint-Nicolas également, puisque c'est une tradition des fêtes de Saint-Nicolas et de Noël et de fin d'année.
Et puis, je ne connaissais pas les tantimoles, mais j'adore le mot. J'adore ce
moi
terme.
Aussi, je trouve
ça tellement mignon. C'est des crêpes, en fait, c'est rien d'autre.
C'est exactement, c'est quand même drôlement mieux que les pancakes, au niveau du nom. C'est en fait des crêpes avec une pâte très riche en œufs, des œufs dont on monte le blanc en neige. Ça donne quelque chose de très, une pâte qui est très aérienne. Et le nom ardennais, si vous avez l'origine, vous qui nous écoutez, je suis preneur.
Et ça ne se mange pas.
Au 32-10, parce que je n'ai pas trouvé l'origine de tantimoles.
Et ça se mange pas à demi. La dinde rouge des Ardennes, oui. Loana.
La dinde rouge des Ardennes. Alors, je ne vous mets pas dans le coffre la dinde rouge des Ardennes, parce que bon, on ne va pas pouvoir la ramener. Mais si vous êtes sur place, vous pouvez la prendre sous vide, ou alors la trouver à un pâté, ou alors, un pâté, c'est délicieux. Alors, quelle est sa particularité? C'est une race ancienne. Il faut savoir qu'elle a failli disparaître, mais qu'aujourd'hui, une douzaine d'éleveurs se sont regroupés en association pour qu'elle puisse exister. C'est une race à croissance très lente. Il faut minimum 6-7 mois d'élevage. Et son alimentation se compose des céréales produites justement sur l'exploitation. Et ils sont complétés avec, vous savez quoi, avec du lait. C'est ça qui va donner ce côté moelleux et très goûteux. Très souvent, la dinde, vous savez, quand on la cuit, elle devient sèche. Et là, on a un côté moelleux, goûteux.
C'est surtout que la dinde, on la consomme à Noël. C'est un réflexe de Noël. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'on fait.
Alors moi je suis triste de voir ça, parce qu'en fait on fait plein de choses. Moi je demande à mon volailler de me faire des ossobuco de dinde, et j'ai fait une gramolata par exemple, ou alors je la cuis comme un daube dans une sauce. Et souvent le dimanche on fait ce poulet, mais vous savez pas à quel point une belle cuisse de dinde va faire plaisir à toute la famille sur un lit de chou rouge avec du fenouil, de l'estragon.
C'est vraiment délicieux. J'adore l'idée. Jean-Sébastien. Et oui, moins cher en plus. Jean-Sébastien, de la dinde et de la bière.
Voilà, c'est exactement
c'est
ça.
Bon aussi.
Les bières, je vous ai dit tout à l'heure, à Revin, on consommait pratiquement 1000 litres de bière par an et par habitant au début du 20e siècle. Il y avait pratiquement des. Il y avait 204, grosso modo, 204 brasseries, j'allais dire distilleries. Brasseries pour une centaine de communes dans les Ardennes. C'est absolument considérable. Et les bières, elles ont pratiquement disparu dans les années 80. Et puis là, elles sont revenues avec toute cette mode de micro-brasserie et de brasserie artisanale. Alors ça donne l'oubliette, la cuvée d'Arthur, la Ardouenne. C'est les trois bières les plus représentées dans le département. Il y a 9 autres brasseries qui produisent près de 80 bières différentes. Et la cuvée d'Arthur est effectivement, paraît-il, c'est ce qu'on m'a dit, la préférée des Carolo Masseria.
Il y a un truc qui devrait vous plaire à tous les deux, ainsi qu'à moi, et à vous qui nous écoutez, parce qu'on aime tous ça, et l'histoire de ce produit qu'on aime, elle démarre dans le comté de Rethel en 1659, là où Mazarin mène un dur combat, et après ce combat, comme souvent, son cuisinier Chamarande a l'idée de réunir de la viande de porc, de la bouillie de lait, et il va faire il va créer le boudin blanc, une merveille. 280 ans plus tard, la famille de Moiset va racheter sa charcuterie. Elle va perpétuer la fabrication de ce célèbre boudin blanc de Rethel.
Ça et aussi, on en c'est parle. Quelque chose qu'il faut rapporter.
Mais oui, c'est pour ça qu'on en parle avec eux dans un instant. On poussera la porte de la charcuterie de Moiset et je vous présenterai Marie. C'est la quatrième génération de la famille. Elle est avec nous dans un instant dans RTL vous régale. À tout de suite.
RTL vous régale.
RTL. 10h15, 11h30, RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka.
On vous le promettait de pousser la porte de la charcuterie de Moiset dans les Ardennes, dans le comté de Rethel de l'époque, pour parler de boudin blanc avec Marie. Marie de Moiset, bonjour.
Bonjour à toute l'équipe.
Bonjour Marie.
Bienvenue dans RTL vous régale. Ça nous fait plaisir que vous soyez avec nous, Marie, parce que comme vous dites, vous êtes née, vous, dans la marmite du boudin blanc. J'adore cette image, mais c'est tellement vrai, c'est tellement votre histoire.
Oui, tout à fait. Ouais, je suis comme Obélix, je suis tombée dedans quand j'étais petite. Alors, on peut parler du boudin blanc autant que vous voulez, et je vais vous confier un secret, c'est que je suis peut-être la seule de la famille à ne pas en manger.
Je sais que vous en mangez pas. Ouais. Mais n'empêche, ça ne vous a pas empêché de voir votre grand-père travailler avec des cochons déjà. À l'époque, ça vous inquiétait?
Non, pas vraiment. Ça ne m'inquiétait pas. Non, c'était assez passionnant. En fait, y a une curiosité qui éveille quand on est môme comme ça et qu'on voit du boudin blanc sortir tous les matins de la marmite que les clients viennent tous les jours en chercher. Enfin, ça partait, mais toute l'année, quoi. Enfin, moi, j'ai vu mes parents porter le boudin blanc comme vraiment le représentant de Rethel. Et aujourd'hui, on est plutôt content avec Alban, mon frère, donc la quatrième génération aussi, que le boudin blanc soit sorti de Rethel, des Ardennes, et qu'on puisse en trouver un peu partout en France.
On va en parler, évidemment. On va en parler. Ouais, parce que le boudin blanc est devenu l'ambassadeur des Ardennes pour plusieurs raisons. D'abord, c'est pas un produit cher. On vient acheter du boudin chez vous pour en offrir, on en fait des cadeaux. Et puis, il y a un aspect de tradition qui est quand même très ancré aussi là-dessus.
Ouais, tout à fait. Ouais. Alors c'est vrai que c'est un produit qui est très attaché à Noël, mais chez nous, dans les Ardennes et même dans les départements limitrophes, hein, la Marne, l'Aisne, etc. Enfin, c'est un produit qu'on mange toute l'année. C'est un produit qui est très accessible. On est autour de 14-15 euros le kilo maximum. C'est un produit qui est simple. Hein. C'est uniquement de la viande de porc, du lait et des œufs. C'est ce qui en fait, un produit très simple et très facile aussi à accommoder avec plein de choses différentes. On parlait des lentillons tout à l'heure. Mmh. On a une petite recette sur notre site internet avec les lentillons de champagne. Enfin, c'est un produit qui va facilement avec beaucoup de choses.
Marie, quand on parle de boudin...
Il y a quand même un truc, c'est que c'est bon. C'est quand même très très bon.
Ah mais comme on dit, tout est bon dans le cochon. Hein.
Non mais c'est, vous dites tradition est bon. Vous êtes quand même, vous avez reçu, je crois, en 2016, hein, je crois, le label entreprise du patrimoine vivant, qui est quand même le must du top de ce qu'on peut faire dans l'archipel français. Et c'est pas rien pour un produit alimentaire en plus, et c'est pas courant.
Oui, on est, je crois, 2000 entreprises en France à avoir ce label. Au-delà de ça, on est surtout très attaché à transmettre un savoir-faire qui est, enfin, qu'on tient, nous, de nos grands-pères et arrière-grands-pères. Il y a des gens chez nous qui ont 40 ans de maison et qui sont vraiment détenteurs de ce savoir-faire. Et donc à ce titre-là, on bénéficie du label entreprise du patrimoine vivant parce qu'il y a un savoir-faire qui est très attaché à la fabrication de ce produit.
Marie, justement, ça tombe bien que vous parliez de savoir-faire parce que j'imagine que, comme souvent, la recette elle est secrète.
Oui, elle est secrète, mais
elle nous l'a donnée. Elle a déjà, c'est juste du lait, des œufs.
Non, c'est bien plus que ça. C'est bien plus que ça.
Moi, parce j'allais la refaire. Hein.
L'histoire est jolie parce que vous avez retrouvé dans les documents de votre père la recette manuscrite de la créatrice de la recette originale du boudin blanc de Rethel.
C'est
un parchemin de patrimoine, ce truc-là.
En quelque sorte, oui. En fait, c'est dans l'acte notarié que notre arrière-grand-père avait signé quand le jour où la signature de l'acte a eu lieu, la vendresse a officiellement remis la recette manuscrite à mon arrière-grand-père.
Mais le secret ne vient pas tellement des ingrédients, mais plutôt de la technique de fabrication, c'est ça ?
Tout à fait, oui, parce qu'en fait, le secret du boudin blanc de Rethel, il y en a pas, comme je vous le disais, c'est uniquement de la viande de cochon, donc de la gorge et de la poitrine, du lait frais, des œufs frais. Nous, on travaille avec un fournisseur de lait local, l'échalote est locale aussi, le porc, on essaye de travailler au plus facile et au local, français évidemment, et des œufs frais, ça je viens de vous le dire. Un petit assaisonnement qui est maison, ça c'est un peu la patte de chaque fabricant.
Après, le
ça
secret.
Va être voilà, c'est ça qui fait qu'on va reconnaître un boudin blanc d'un autre.
Et c'est puis la signature.
Ouais, la qualité du lait va faire beaucoup dans la différence dans le goût. La proportion des œufs, elle varie pas énormément d'un fabricant à l'autre, mais quand même, il y a un petit une petite pâte qui est propre à chacun. Et surtout le tour de main.
C'est le tour de main, voilà. C'est ouais, là qu'il est le secret.
Ouais.
Marie,
ça tient dans la texture, dans la cuisson et voilà.
Marie Demoisé, on vous embrasse. Je rappelle que vous faites partie de la quatrième génération de la maison de la famille Demoisé. Boudin blanc à Rethel. On vous souhaite tout le meilleur et à très vite sur RTL. Merci beaucoup.
Merci infiniment. Bonne continuation.
Prenez soin de vous. C'est terrible. J'ai la chanson des Légionnaires qui résonne. Ah, voilà, des boudins. Voilà. Même si pour les Belges, il n'y en a pas. On marque une pause et dans un instant, je vous présenterai Gisèle. Elle est à la Garenne Colombe. Elle a deux mots à vous dire. Enfin,
ça
un mot.
Ça n'a rien à voir avec les boudins. Hein, en plus.
Non, je sais. Les Italiens, il y a un nom. Il y en a pour les Italiens.
On va investiguer. On va investiguer. J'annonce le retour du défi frigo dans un instant. A tout de suite sur RTL.
RTL vous régale.
RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka.
C'est l'heure que la France attend tous les samedis, juste avant l'info de 11h. L'heure du Game of Fridge aujourd'hui, le défi frigo. Luana contre Jean-Sébastien.
T'es
ça
pas
vous a
là
manqué
pendant deux semaines.
Je sais, il s'est passé
Game
des choses inavouables.
Game of Fridge, ouais. Vous changez, dis donc.
Hein. Ah, bah, c'est la parodie de Game of Thrones, évidemment.
Mais bien sûr.
Je vous présente Gisèle à la Garenne Colombe. Gisèle, bonjour.
Bonjour Jean-Sébastien.
Bonjour Gisèle.
Bonjour
Michel.
Je suis ravi de vous accueillir. Oui. Bah oui, elle est là, elle
oui,
va bien.
Oui, je suis de retour. Ah. Voilà.
Bon, on est content.
En pleine forme. Merci, tant c'est bien, gentil. Merci.
Gisèle, vous m'avez l'air en forme, vous aussi, pour nous annoncer ce que vous avez dans votre frigo qui va faire l'objet du défi de ce matin.
Oui, alors j'ai des patates douces.
Ah, j'adore ça.
Ah, c'est bien ça. Ça va nous c'est donner bon, peut-être alors. Deux recettes originales, un peu exotiques. Allez savoir, on va se reparler dans oui. quelques instants. Ils vont avoir le temps des infos et puis 1 minute 30 pour vous énoncer leurs recettes chacun. Je leur souhaite bonne chance. Gisèle, vous ne bougez pas. On se retrouve dans moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Vous écoutez RTL.
D'accord.
Il est 11h.
10h15, 11h30, RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka.
C'est l'heure du défi frigo. Gisèle, à la Garenne Colombe, dans les Hauts-de-Seine, nous propose de la patate douce. Je suis surpris parce que vous n'êtes pas une professionnelle de la cuisine exotique. Je sais, Gisèle, que votre plat fétiche, c'est plutôt la blanquette.
Voilà, j'aime bien la blanquette et j'aime beaucoup les potages.
D'accord. Bon, alors de la patate douce, elle sort d'un peu nulle part, à part de votre frigo quand même. Je ne sais pas comment oui. elle s'est retrouvée là, mais en tout cas, elle s'y trouve. Gisèle, on va vous faire rêver, on va vous emmener sur deux recettes originales. On commence avec qui ? C'est vous qui allez choisir.
Eh bien, avec Luana.
Allez, oui. c'est parti. Luana, pour son grand retour, signe une recette en 1 minute 30 chrono. C'est parti, bonne chance.
Alors Gisèle, on va faire un gratin des patates douces et topinambours. J'adore ce gratin. Vous allez préchauffer le four à 180 degrés. Dans une cocotte, en fonte si c'est possible, vous faites revenir dans de l'huile d'olive, des oignons coupés en morceaux. Vous rajoutez la patate douce qui va être pelée et coupée en morceaux à peu près 2 mm. Ainsi que les topinambours qui sont coupés pareil. Vous rajoutez une feuille de laurier. Vous faites revenir 5 minutes. Les légumes doivent être tendres. Vous allez déglacer avec du vin blanc sec et vous rajoutez 2 verres d'eau que vous portez à ébullition. Quand tout le liquide est absorbé, vous salez, vous poivrez et vous réservez. Dans un bol, vous allez battre des œufs avec un peu de bouillon des légumes. Vous prenez un plat à four, vous disposez les patates douces plus les topinambours et attention, des morceaux de pain rassis. Alors moi, je mélange, je le fais vieillir exprès, je mélange du pain au raisin sec, du pain aux céréales, de la baguette, du pain, si vous voulez, aux noix. Vous les mélangez donc aux légumes, vous versez les œufs battus par-dessus avec toujours le bouillon. Et non, vous enfournez, vous faites. Mais j'ai pas de soupe.
Je suis désolé.
Et vous faites cuire jusqu'à quand c'est croustillant. Voilà.
Ah ben voilà, jusqu'à quand ça.
Et c'est super gourmand.
C'est bon. Bon, vous avez compris, Gisèle, la cuisson, c'est jusqu'à quand c'est croustillant.
Mais oui, on met les œufs, on met ce bouillon avec les œufs et ça doit croustiller après par-dessus.
Voilà.
Luana, comment est-ce qu'on appelle cette recette ? Parce que moi, j'ai noté patates douces topinambour.
Moi, c'est un gratin, des patates douces topinambour et de pain. Ce qu'il fait, cette recette, c'est le mélange des plusieurs pains que souvent on jette.
D'accord.
Il y a des pains au raisin, au noix, de la baguette. C'est ce mélange-là.
On a compris que l'originalité de la recette résidait dans le mélange des pains. Nous, ce qu'on aime, c'est le mélange des genres. Alors, vous allez voir que face à...
Le mélange des tout aussi, ouais, c'est la patate douce.
Face à Louana Belmondo, Gisèle,
oui.
Il fourbit ses armes. Une minute trente, montre en main, voici Jean-Sébastien et sa recette.
Non, vous allez voir que quand on fait du salé, on n'est pas très original de toute manière en ce qui concerne la patate douce. Vous allez la prendre, vous allez l'éplucher, cette patate douce, et puis vous allez la râper. Vous allez mélanger ce râpé de patate douce avec du sel, du poivre, de la noix de muscade râpée, de l'ail coupé en tout petits morceaux et 2-3 feuilles de sauge. Ça, vous réservez dans un coin. Dans une poêle, vous faites chauffer d'huile d'olive. Vous allez faire blondir un oignon coupé très fin. Et puis, quand il est juste blond, vous ajoutez le râpé. Vous cuisez le tout en remuant pendant 5 minutes à feu vif, histoire que ça sèche un peu. Et ensuite, vous couvrez. Vous mettez un feu très doux et vous cuisez l'ensemble pendant 15 minutes. Vous allez transférer cette préparation dans un plat qui va au four. Vous le laissez dans votre cocotte ou dans votre poêle si elle va au four. Vous allez faire 4 trous dans cette préparation qui est un petit peu... Et vous allez casser des œufs très frais. Et vous mettez ça au four à 190 degrés, juste le temps que le blanc coagule, mais que le jaune soit encore largement moelleux. Et vous allez casser comme ça les œufs au moment de servir. C'est un formidable... C'est un rösti de patates douces aux œufs. Et c'est absolument génial quand vous prenez un petit déjeuner tardif, quand vous avez envie de faire une entrée ou un plat du dimanche soir avec une belle salade.
Attention, c'est top chrono. Bravo, en moins d'une minute trente. Deux recettes originales, on l'appelle comment la vôtre, Jean-Seb ?
J'ai eu le même temps, vous êtes
sûr ? Je vous le confirme, ouais, je vous le confirme. Ouais.
Je parle lentement alors. Je ne me suis pas tellement remise, j'ai pas de souffle.
Êtes-vous en train de sous-entendre qu'il y aurait deux poids, deux mesures ?
Non, pas du tout. Jamais.
J'espère bien.
Jamais, non, pas du tout. J'ai parlé de moi.
Louana contre Jean-Seb à base de patates douces. Jean-Seb, on l'appelle comment votre recette à vous ?
Ah bah c'est un rösti de patates douces, tout bêtement.
Rösti de patates douces contre gratin de patates douces et topinambour. Gisèle, c'est vous la vedette du défi frigo. C'est vous qui avez imaginé ce truc à base de patates douces. Alors maintenant, il faut prendre vos responsabilités.
Alors, je prends mes responsabilités et je choisis Louana.
Oh,
parce que je trouve
merci.
La recette plus originale.
Alors,
j'aime bien ce mélange avec le
oui,
pain. Et...
Je voulais vous dire voilà. Quelque chose parce que j'ai jamais le temps, en fait. Quand vous allez battre les œufs en omelette, surtout mettez un peu de bouillon de légumes. Vous verrez, ça donne un côté fluide. Ça va vous faire mousser encore plus l'œuf.
Ça donne un petit côté stracciatelle, vous
oui,
savez.
Oui, et vous allez, quand vous allez disposer sur vos topinambours et votre patate douce et vos pains surtout mélangés, moi, je vous dis la vérité, j'en chète plus. Et puis je laisse la moitié un peu rassir et prêt pour faire ce plat.
Louana Belmondo, c'est par une victoire qu'elle célèbre son grand retour
merci.
Dans le défi frigo.
Merci à tout le monde de m'avoir
nous
aussi bien
remis, nous avions remis les compteurs à zéro. Elle mène 1-0 dans ce défi frigo, nouvelle mouture. Puisque Jean-Seb est battu pour cette semaine, mais qu'à cela ne tienne, il sera de retour plus fort encore dès le week-end prochain. Vous avez bien fait.
La première partie de l'année, ça va.
C'est pas faux, ça. Gisèle, vous avez drôlement bien fait de passer nous voir sur RTL ce matin. Car musique. Love. Vous connaissez ce générique, Gisèle ?
Ah si,
vous pouvez pas passer à côté de ça.
Ça vous n'avez pas regardé.
Ça a 40 ans quand même.
Stabbing. Le capitaine Gisèle embarque à bord du boat car vous allez partir une semaine en vacances à 4 personnes. Écoutez-moi bien, sur un bateau de location pour naviguer sur une rivière ou un canal de votre choix. Gisèle, c'est vous
c'est
qui
merveilleux.
Écoutez ça, c'est vous-même qui après un cours d'initiation d'une vingtaine de minutes à la conduite au départ, allez conduire, piloter ce bateau. Vous allez voir, c'est très facile, c'est sans permis, c'est très confortable et c'est surtout une formidable manière de découvrir la région de France en naviguant par exemple en Camargue, ou sur la Vilaine en Bretagne, ou encore sur la Saône en Bourgogne. Vous allez choisir la région. Il y a 26 bases de départ le boat en France et plus de 600 bateaux. Nous affrétons déjà le vôtre à votre nom. La cabine Gisèle est prête. Vous pouvez aller voir toutes les infos sur leboat.fr. Le boat,
merci,
c'est le
beaucoup.
Puis B-O-A-T. Gisèle.
Génial. Mais voilà.
C'est exactement ça. Faites des photos, envoyez-nous ça, on les publiera, oui, ça nous fait toujours plaisir.
Bien sûr. Merci beaucoup, merci infiniment.
Et si d'aventure sur le pont supérieur de votre navire, vous avez envie de gratiner de la patate douce et du topinambour, faites-vous plaisir.
Je vous
enverrai
des photos.
Super, Gisèle.
Voilà, le défi frigo qui ce matin s'est mué en défi bateau. Belles vacances à vous, Gisèle, et à très vite
merci
sur RTL.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Le
au
défi
revoir.
Frigo d'RTL vous régale toutes les semaines pour lancer un défi. Allô, Anna et Jean-Seb, c'est facile. 3210 par téléphone, vous nous appelez dès maintenant, pourquoi pas pour la semaine prochaine, ou 64 900 par SMS avec le mot régale. Dans un instant, dans la suite d'RTL vous régale, l'ambassadeur de la région de Charleville-Mézières. On reste au cœur des Ardennes. C'est une petite surprise. Je vous en dis plus dans un instant. A tout de suite sur RTL.
RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka.
Il écrivait sur des morceaux d'azur, sur les étangs, sur les forêts. Il écrivait sur le vent, sur les murs, mais aujourd'hui il chanterait. Rameau chanterait, bras en croix, Rameau chanterait le temps venu, un soleil dans le cœur, un sanglot dans la voix. Chanterait, et toute la foule sifflerait, mais Rameau chanterait, mais Rameau chanterait. Il t'a laissé des mots venus du cœur pour ne pas mourir tout à fait. Lui l'homme fou, l'ami, le déserteur. Aujourd'hui, comme il chanterait. Rameau chanterait les mains tendues, Rameau chanterait les bras en croix, Rameau chanterait le temps venu, un soleil dans le cœur, un sanglot dans la voix. Là devant la foule, il chanterait, comme un oiseau libre, il chanterait, et toute la foule sifflerait, devant toi tu verrais. Un bateau qui se noie, un bateau qui se noie, et Rameau chanterait. Rameau chanterait le poing levé, Rameau chanterait le cœur serré, Rameau chanterait la liberté, et l'amour et l'enfer, et le fleuve et la mer. Bien devant la foule, il chanterait, comme un oiseau libre, il chanterait. Et toute la foule sifflerait, mais Rameau chanterait, et Rameau chanterait. Rameau chanterait le poing levé, Rameau chanterait le cœur serré, Rameau chanterait la liberté, et l'amour et l'enfer, et le fleuve et la mer. Là devant la foule, il chanterait, comme un oiseau libre, il chanterait.
1973, Rimbaud chanterait, Michel Delpech sur RTL.
Passez un bon week-end sur RTL.
RTL, toujours avec vous. 10h15, 11h30, RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka.
C'est l'ambassadeur de Charleville-Mézières ce matin de RTL vous régale. Bonjour Monsieur le maire, bonjour Boris Ravignon.
Bonjour.
Bienvenue sur RTL. Je disais qu'on cherchait un ambassadeur pour nous guider sur les pas de Rimbaud. Vous êtes la personne toute désignée, parce que c'est vous qui avez décidé de faire vivre les textes de Rimbaud sur des façades de votre ville. Vous le dites, hein, Rimbaud fait partie de mon ADN, carrément.
Oui, moi je suis né à Charleville-Mézières et comme tous les Carolos, on apprend dès le plus jeune âge des poèmes de Rimbaud. Alors il nous suit ensuite tout au long de notre vie. Il fait effectivement partie de notre ADN.
Alors vous êtes maire depuis 2014. Vous êtes devenu un ardent défenseur de Rimbaud et de son œuvre. La place de Rimbaud, c'est tout un débat. Il y a eu la fameuse Panthéonade là, dont on a parlé ces dernières semaines. La place de Rimbaud, elle est à Charleville.
Ah oui, moi je suis absolument convaincu que Rimbaud est ici chez lui. C'est la ville où il est né, c'est celle où il a écrit une grande partie de son œuvre, et puis c'est celle aujourd'hui où il repose. Et depuis maintenant 1891 qu'il est enterré ici dans notre ville, on cultive cette postérité de Rimbaud et il y a vraiment aujourd'hui toute sa place et les carolomacériens, c'est les habitants de Charleville-Mézières, sont extrêmement attachés à cette figure. Et ne voulait absolument pas le voir quitter notre ville.
Monsieur le maire, je ne veux pas raviver la polémique, mais c'est vrai qu'il y a eu un débat là-dessus. Vous êtes élevé contre cette idée qu'on peut considérer bizarre de transférer la dépouille de Rimbaud au Panthéon.
Oui, ce qu'on disait, c'était finalement si on veut rendre hommage à Arthur Rimbaud, il y a de quantité de moyens de le faire. Le retirer de la ville où il est né, où là encore il a écrit une partie de son œuvre et où aujourd'hui on met en œuvre au quotidien des actions pour faire connaître sa poésie, parce que Rimbaud c'est une icône, mais c'est d'abord un immense poète, et donc on a un musée qui lui est dédié, qui a été rénové récemment. Vous venez de le rappeler. Inscrivons la poésie de Rimbaud sur les murs de la ville et chaque année 4 ou 5 fresques supplémentaires. Donc il y a vraiment un engagement extrêmement fort de la municipalité. Et donc je ne comprenais absolument pas le besoin qu'il y avait pour rendre hommage à Rimbaud, ce qui est encore parfaitement compréhensible, et bien de déplacer ses restes au Panthéon. Et puis reconnaissez qu'un révolutionnaire comme Arthur Rimbaud, l'enfermer dans le Panthéon, c'est quand même une idée un peu saugrenue.
Ouais, voilà. Donc vous êtes satisfait de la décision du président Macron?
Oui, satisfait et soulagé. Je crois que comme beaucoup de Rimbaldiens sincères, on ne voyait vraiment pas comment cette opération pouvait se monter et rendre l'hommage adapté à Arthur Rimbaud. Il faut faire connaître sa poésie, c'est ça le sujet. Et sur ce programme-là, sur cet objectif-là, on doit pouvoir se réunir, même ceux qui ont lancé ce projet. Qui doivent, j'imagine, aimer Rimbaud, eh bien, moi je leur dis, venez nous aider ici à Charleville-Mézières à faire connaître encore mieux sa poésie.
Monsieur le maire, puisque vous êtes notre guide, on arrive à Charleville chez vous, quelle est la balade que vous nous proposez pour découvrir l'œuvre de Rimbaud, au-delà de la tombe évidemment?
Alors, on a en fait maintenant développé un parcours Rimbaud qui est à la fois un parcours historique et artistique, puisque il y a différents lieux dans la ville, sa maison natale, la maison où il a vécu, où il a écrit une partie de son œuvre, qui est devenue la Maison des Ailleurs, qui est un lieu d'exposition, une résidence d'artistes. À deux pas, le musée Rimbaud, qui lui est consacré dans un magnifique moulin du XVIIe siècle, assez un peu extraordinaire, puisqu'il a un fronton de temple grec, enfin. Et puis il y a dans la ville, donc maintenant depuis plusieurs années, c'est presque monumental sur de très grands pignons d'immeubles dans la ville qui inscrivent la poésie d'Arthur Rimbaud. Et donc il y a maintenant une quinzaine de fresques qui s'ajoutent aux différentes étapes plus historiques dans la ville. Et donc on peut parcourir, faire avoir ce parcours Rimbaud à la fois entre la poésie et puis l'histoire de sa vie à Charleville.
Et j'imagine que vous êtes extrêmement impatient de pouvoir rouvrir enfin le musée qui est fermé forcément en ce moment.
C'est un crève-cœur, la fermeture des musées aujourd'hui. On est, je crois, tous les élus locaux dans l'incompréhension. Un musée, c'est un endroit où on ne touche rien, où on n'est pas obligé d'être les uns sur les autres, où on peut porter le masque, où on peut respecter des distances, des sens de circulation. Et effectivement, ce musée Rimbaud, comme les autres, on a tous, je crois, très très envie de les voir rouvrir et de voir nos concitoyens pouvoir de nouveau y accéder.
Boris Ravignon, je rappelle que vous êtes le maire de Charleville-Mézières. Merci d'être passé nous voir dans RTL. Vous régale, ça nous a fait plaisir. On vous souhaite tout le meilleur. À bientôt.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
RTL vous régale. RTL. 10h15, 11h30, RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka.
Merci d'avoir passé votre début de week-end avec nous sur RTL. Ça continue dans un instant avec Jade et Eric Dussard qui reçoivent Gérard Jugnot. La semaine prochaine, on se retrouve aux alentours de 10h. Louana, Jean-Sébastien, nous allons...
Direction Camargue.
Oh, les flamants roses, oui. Le riz de Camargue. RTL. Oui, absolument. RTL vous régale est à réécouter sur l'appli RTL. On vous embrasse. Délicieux week-end et à la semaine prochaine.